Bonsoir et bienvenue pour l'épisode numéro 6 de ce podcast consacré à la PS Vita. Celui-ci vous est proposé par le site planetevita.fr. Au sommaire pour aujourd'hui, nous ferons le tour des dernières infos liées à l'univers de la PS Vita, ainsi que ce qu'il se passe sur le site planetevita.fr. Ensuite, nous recevrons deux invités. Le premier, ce sera SBK, qui viendra nous parler des portages non officiels qui sont réalisés sur la console. Et enfin, en fin d'émission, nous recevrons César, qui est un jeune joueur, et il viendra nous raconter son histoire avec la console portable. Commençons par faire un petit tour d'horizon sur le site pour voir ce qu'il s'est passé depuis la dernière fois. Comme promis, nous avons enfin mis en ligne notre liste des jeux cross-buy. Donc cette liste vous permet en fait de savoir si vous achetez un jeu sur PS Vita, si vous pouvez avoir la version PS4 ou PS3 de ce même jeu. Donc c'est très pratique, ça permet de faire des économies et puis d'avoir un jeu sur plusieurs supports. Donc cette liste se retrouve directement sur le site. Nous avons également mis en ligne une autre liste, et celle-ci elle est régulièrement mise à jour puisqu'il s'agit de notre liste des jeux PSP et PS1 qui sont proposés avec le nouveau PlayStation Plus. Donc si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'avec le palier le plus cher du PlayStation Plus, vous pouvez, entre guillemets, acquérir des jeux qui étaient initialement proposés sur PSP et PS1. Donc nous avons fait une liste. Pourquoi nous avons fait cette liste? Parce que si vous n'êtes pas abonné au PlayStation Plus, vous pouvez acquérir ces titres directement en les achetant à l'unité sur le store du PlayStation 4 et de la PlayStation 5. La petite particularité, et on en avait déjà parlé sur un précédent podcast, c'est que si vous aviez déjà obtenu l'un de ces jeux à l'époque de la PSP ou de la PS1, donc sur l'ancien PlayStation Store, vous pouvez gratuitement les retrouver pour votre PlayStation 4 ou votre PlayStation 5. Par exemple, si vous aviez auparavant obtenu, je sais pas moi, Worms, et bien là, vous pouvez le retélécharger gratuitement sur la PlayStation 4 ou la PlayStation 5. Donc voilà, nous avons fait cette petite liste pour savoir justement comment retrouver les différentes fonctionnalités ajoutées. Il peut y avoir donc des trophées, il y a le rembobinage, il y a des filtres également pour que ce soit un peu plus joli visuellement, sans faire pour autant des miracles. Mais voilà, ça peut être très pratique, à savoir que ces jeux sont rajoutés en général une fois par mois, aux alentours du 10 ou du 20 de chaque mois. Donc voilà, pour le mois de février par exemple, nous avons eu sur PS4 et PS5 le jeu PSP Résistance Rétribution, et nous avons également eu le jeu Jet Rider 2 qui était officiellement sorti sur PS1. Donc voilà, nous vous invitons à voir cette liste, d'autant plus que si vous êtes malin, en allant sur le store de la PS Vita pour acheter l'un de ces jeux, souvent ils sont proposés moins cher. Et ça vous permet justement, sur le modèle de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, de récupérer les versions PlayStation 4. Par exemple, toujours Résistance, il est vendu à l'unité 9,99€ sur le store de la PlayStation 4 ou de la PlayStation 5. Si vous allez sur le store de la PS3 ou de la PS Vita, il est proposé à 7,99€. C'est toujours 2 petits euros de grappillés. Au niveau des derniers tests de jeux publiés sur le site, nous vous avons gâté avec 3 jeux. Par exemple, nous avons eu Dead Nation, Lemmings Touch, mais également le incontournable Soul Sacrifice Delta, dont nous avons longuement parlé dans notre podcast numéro 5. Et je vous invite vraiment à réécouter ce podcast si ce n'est pas fait et si ce jeu vous intéresse, puisque le test est enfin publié sur le site. Il a été rédigé par Paka, que vous justement retrouvez également sur le podcast numéro 5. Au niveau des dernières informations sur le site publié autour de la PS Vita, sachez que depuis le 16 octobre, c'est l'application Netflix qui ne fonctionne plus sur la PS Vita. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application n'est pas sortie en Europe. Elle était sortie uniquement en Amérique du Nord. Et donc voilà, depuis la moitié du mois d'octobre, il n'est plus possible de le lancer pour regarder des films sur la PS Vita. Honnêtement, je pense pas que beaucoup de personnes s'en servaient encore pour regarder des films Netflix sur la PS Vita. Mais voilà, c'est la fin de support de Netflix pour la PS Vita. Une autre petite information qui était intéressante, mais qui ne concerne pas vraiment la PS Vita, ça concerne la PSP. Au Japon est sorti un adaptateur HDMI qui permet en fait de jouer au jeu de la PSP directement sur la télévision grâce à un adaptateur HDMI. Donc cet article est sorti au Japon, il est disponible sur Amazon Japon, c'est pour ça que nous en avions parlé, puisque ça peut être assez intéressant pour ceux qui sortent encore leur PSP et qui préfèrent jouer aux jeux PSP sur la PSP avec le bon vieil UMD. Enfin, pour terminer, au niveau des dossiers, parmi ces dossiers, nous avons ressorti un vieil accessoire qui s'appelle le Play TV, et alors à ne pas confondre avec la PS TV. Le Play TV, c'était un accessoire qui se branchait à la PS3 et qui permettait de regarder la télé TNT directement sur la PS3. Alors, la petite chose amusante et qui peut nous intéresser, c'est qu'à l'époque, il était possible de lancer le Remote Play depuis la PSP pour regarder justement la télé depuis sa PSP. On peut également le faire du coup avec la PS Vita en passant toujours par la lecture à distance, et ça permet de regarder la TNT, la télé TNT qui tourne sur sa PS3 depuis sa PS Vita. Alors, c'est peut-être pas très utile actuellement, puisque maintenant on passe tous par le mobile et pas par des applications, mais sachez que voilà, que ça existe et que ça fonctionne encore. Et il vous est même possible avec cet accessoire d'enregistrer des émissions et de faire une petite bibliothèque sur la PS3, donc accessible à distance avec le Remote Play. L'un des derniers dossiers que nous avons publié également, c'est un dossier consacré au meilleur portage non officiel des jeux sortis sur PS Vita. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que on a, au-delà des jeux officiels, des petits malins qui se sont amusés en fait à porter des jeux qui étaient publiés sur Android ou sur l'univers PC pour la PS Vita. Alors, on peut retrouver entre autres des GTA, du Crazy Taxi, etc. Et c'est justement avec SBK, qui est notre premier invité, que nous allons en parler.
Salut. Donc alors SBK, toi tu viens nous parler des portages, de ces fameux portages. Régulièrement, on voit des informations qui circulent sur des nouveaux jeux qui arrivent sur la PS Vita, mais ce ne sont pas des jeux officiels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? De quoi il s'agit en fait?
Là, c'est vrai que très récemment, depuis ces 2-3 dernières années, on parle surtout de portage Android, parce que c'est surtout ça, ce qui est fait en ce moment. Mais ça n'a pas commencé comme ça. C'est-à-dire que ils ont d'abord commencé par des portages de jeux PC. À noter que autant pour les portages Android, il y a des critères bien établis pour savoir ce qui est portable ou non. Autant pour les portages PC, c'est un peu au hasard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour espérer avoir un portage d'un jeu PC, il faut soit un jeu avec un moteur open source, donc du coup qu'on peut recompiler entre guillemets facilement pour que ça marche sur la console, soit avoir un jeu qui a été entièrement décompilé ou qui a eu un reverse engineering, ce qui fait que le jeu est plus facile à étudier et ce qui fait qu'on peut plus facilement bricoler autour et sortir un portage. Dans les cas les plus connus, on va parler de GTA 3 et Vice City, donc ils sont arrivés sur la Vita, mais c'est pas les portages des versions Android. Ils ont commencé avec les versions PC parce que à ce moment-là, il y avait ils n'avaient pas encore eu cette découverte que on peut porter des jeux Android sur Vita. Mais du coup, pour les cas de GTA 3 et Vice City, ils sont partis en fait de Re3 et Re-VC comme base.
Qu'est-ce que c'est précisément? Parce que c'est vrai que ce qu'on voit dernièrement, c'est principalement du portage Android. Et pour les trois GTA qu'on a sur la, il y en a même quatre, hein, les GTA qu'on a sur la PS Vita. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, rappelons-nous qu'il n'y a aucun GTA sur la PS Vita de manière officielle, mais on a effectivement des GTA issus du monde Android. Donc tu dis qu'à la base, ils étaient concentrés sur le PC, c'est ça? Sur les versions PC?
C'est-à-dire que on n'avait pas encore découvert qu'on pouvait faire des portages Android. Du coup, le seul truc possible, c'était faire des portages de jeux PC. Si on remonte dans un historique un peu plus complet, ce qui a été fait en premier, c'est les pionniers du FPS de l'époque. Donc en gros, tout ce qui est Doom, Quake, Wolfenstein, Duke Nukem 3D. Il y a eu des portages Vita de tous ces jeux-là, pour la simple et bonne raison que Doom, c'est le jeu, il est bricolé dans tous les sens. Quake, c'est pareil. Wolfenstein, c'est pareil. Et en fait, tous ces jeux-là ont été portés assez tôt. Je crois que tout ça, ça date de 2018-2019.
Tôt mais tardivement dans la vie de la console.
Pour ce qui est de l'Underground, c'est assez tôt, parce qu'en fait, quand on regarde l'historique des firmware, on regarde que le firmware 360, il est pas si vieux, et c'est de là que quasiment tout le hacking est parti sur la console. Donc c'est tardif par rapport à la durée de vie de la console, mais c'est plutôt tôt dans sa seconde vie, on va dire.
D'accord.
Et pour revenir du coup aux exemples de GTA 3 et Vice City, donc je parlais de Re3 et Re-VC. En gros, c'est des projets open source qui visaient à faire du reverse engineering sur GTA 3 et Vice City. Et en gros, c'est de là que sont partis les portages, pas que pour la Vita d'ailleurs, mais du coup, en fait, c'est par de là, tout simplement parce que avoir un projet open source avec du reverse engineering, ça aide, comme j'ai dit, à mieux comprendre comment le jeu fonctionne et le détourner de son usage initial. Sinon, dans
Ok.
d'autres exemples de portage de jeux PC, il faut savoir que tous les Sonic de la Mega Drive y sont passés. Alors là, pour ça, c'est pas du reverse engineering, ils ont juste décompilé les jeux. Donc, en gros, quand on fait du code et qu'on veut en faire un jeu, il faut compiler. Là, du coup, ce qui était fait, c'est l'inverse. Donc, c'est pas tout à fait du reverse engineering. D'après ce que j'en ai compris, c'est deux choses différentes. En gros, faire de la décompilation, c'est un peu trouver. Je dirais que c'est un peu comme trouver une clé de décryptage pour décrypter un code. Alors que reverse engineering, c'est
Oui.
tu pars de rien et tu essaies de revenir à la base sans craquer le code, on va dire. C'est un peu. Reverse engineering, c'est un peu de la déduction, alors que de la décompilation, c'est du décryptage, quoi. Un peu si je devais vulgariser un peu la différence. Et après, il y a eu pas mal soit des point and click, soit des jeux d'aventure, soit des RTS, par exemple, des jeux de stratégie en temps réel. Donc, dans tout ça, on a eu, par exemple, les premiers Diablo et les premiers Fallout qui ont été portés aussi. Dans les jeux d'aventure, il y a eu du coup Flashback et Another World, donc ils sont alors c'est du même créateur, mais c'est pas une seule et même saga, mais c'est deux excellents jeux, pareil époque Mega Drive, on va dire. Et en fait, c'est vraiment avec les portages de GTA 3 et de Vice City que peut-être ça a bousculé les gens à se dire on peut réussir à porter des jeux aussi exigeants sur la console, parce que c'est juste que c'est vrai que jusque-là, c'était des jeux des années 90, quoi. Ou alors des jeux début des années 2000, mais vraiment des jeux pas très exigeants, quoi. Alors que tout de suite, avec un GTA, forcément, c'est pas pareil.
Bah, le GTA, c'est tout un symbole, surtout pour comme on l'a dit tout à l'heure, une console qui n'a pas eu son GTA. Et puis c'est aussi ce qui a fait, on va dire, connaître la PS Vita d'une manière un peu plus underground, on va dire.
Ça élargit sa palette de possibilités, quoi. Avant ça, on savait déjà que c'était une très bonne machine pour l'émulation notamment, une machine à presque tout faire en termes d'émulation. Mais du coup, ouais, ça a ouvert des portes, alors même que presque on pourrait penser que tout avait déjà été fait, qu'on pourrait pas aller plus loin. Et au final, une porte a été franchie, puis une deuxième, puis une troisième. Là, je trouve qu'à l'heure actuelle, on tombe à nouveau sur un truc où on se dit peut-être qu'il y aura pas plus, parce qu'on a déjà beau pas mal repoussé ce qui a déjà été.
Ouais, on a quand même pas mal de belles choses, effectivement. Et la pourriture qui demande sur le chat, alors c'est peut-être un peu plus technique, hein, mais quelle méthode est la plus fidèle à l'œuvre originale, si c'est le reverse engineering ou la décompilation?
C'est la
Si
décompilation.
tu peux répondre à cette question.
C'est la décompilation parce qu'en fait, décompilation, c'est tu pars du jeu original,
Et oui.
alors que le reverse engineering, des fois, tu as besoin de réécrire et tu te rapproches le plus possible de l'original, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% l'original. Alors qu'une décompilation, c'est le jeu brut que tu as réussi à récupérer dans son format d'origine. Donc, décompilation, c'est vraiment 100% fidèle.
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est facile de porter un jeu quand ça vient de la plateforme Android?
Alors, du coup, je peux y venir parce que du coup, c'est la suite de. Parce que là, les portages PC, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire, que ce soit en termes
Ouais.
de comment on fait, comment ça marche. Sachant que pour les portages PC, comment ça marche, bah, ça varie énormément d'un jeu à l'autre parce que c'est pas dit que c'est fait à chaque fois de la même manière. Alors que là, on peut le voir, enfin, on va le voir avec les jeux Android, c'est globalement toujours pareil parce qu'en fait, ça a été un peu standardisé, on va dire. Après, pour chaque portage, il y a son lot de micro-ajustements pour que le jeu tourne bien, mais sinon, à la base même, c'est toujours la même chose. Donc, dans un premier temps, on a les portages Android qui sont faits en utilisant So Loader. Donc, en gros, tous les jeux Android qui utilisent une certaine librairie peuvent, à quelques critères près, subir un portage. Ces critères étant avoir un exécutable en ARM V6 ou en ARM V7, donc il n'y a pas de pas plus, pas moins. Utiliser OpenGL ES en version 1 ou 2. Certains jeux utilisent GLES 3+, mais c'est des cas exceptionnels. C'est-à-dire que la plupart des jeux qui utilisent GLES 3+, c'est mort, mais il y en a un ou deux qui peuvent réussir à passer. C'est un peu compliqué pour ces cas-là.
D'accord.
Si je dois expliquer vite fait, ARM V6, ARM V7, c'est l'architecture. ARM, c'est à la fois un type de puce pour les appareils mobiles, mais c'est aussi une architecture bien spécifique. Donc là, V6 ou V7, c'est la version. Et pour ce qui est de OpenGL ES, alors OpenGL, c'est une librairie graphique. Donc c'est un peu comme DirectX ou autre, pour ceux qui connaissent. Et du
Ouais.
coup, OpenGL ES, c'est une dérivation d'OpenGL. Donc ES, c'est pour Embed System, donc système embarqué. Donc en gros, ça va être pour les consoles, pour les téléphones. Le dernier point, donc en dehors de l'exécutable en ARM V6 ou V7 ou l'OpenGL, ça va être que ça ne marche pas avec les jeux faits sur Unity. Voilà. C'est-à-dire que si l'exécutable est bon, que l'OpenGL est bon, mais que le projet fait sur Unity, ça marchera pas. Et autre chose, si le jeu est fait avec GameMaker Studio, c'est autre chose. C'est un autre cas à part. Mais là, du coup, avec Soloader, donc c'est dès qu'un jeu a un dossier lib avec du coup la librairie à l'intérieur et que après l'exécutable est bon, logiquement ça passe. Après, ça
D'accord.
reste théorique, c'est-à-dire qu'il y a une liste qui est dispo sur Internet où en gros il y a à l'heure actuelle il y a 330 jeux listés comme théoriquement possible, 20 jeux où des travaux ont déjà été commencés, mais ça veut pas dire que qu'ils vont continuer. Bon, en gros, ça veut juste dire qu'ils se sont penchés dessus. Il y a 58 jeux qui ont été terminés, donc on a déjà 60 jeux Android portés, hein, c'est pas rien déjà.
C'est clair que c'est
Ça
pas rien,
booste
ouais.
le catalogue. Et après, il y a 20 jeux qui ont déjà été mis de côté comme étant impossibles à porter. Là, j'ai la liste sous les yeux, je vous citais quelques jeux qui ont du coup été écartés. En tête de gondole, on a Asphalt 9, qui est jugé impossible parce que bah ça utilise ARM V7 et GLES 3+. Autant ARM V7, c'est pas forcément un problème. Mais comme je l'ai dit, GLES 3+, c'est compliqué, c'est souvent des cas exceptionnels, là ça passe pas. Ah oui, point intéressant, ils ont essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de porter la version Android de Borderlands 2 et du coup faire un meilleur portage que le portage qui est sorti pour de vrai.
Ça, c'est pas sympa, ça. Mais ouais, pourquoi pas. Et donc,
Mais
ça a donné quoi?
bah malheureusement, ça a été noté impossible parce que c'est pareil, GLES 3+, c'est compliqué, c'est un peu malheureux.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Borderlands sur PS Vita, c'est vrai que malheureusement, le jeu souffre un peu de gros ralentissements. Voilà, le jeu est bien, mais il y a de gros ralentissements. Il y a quelques bugs un peu disgracieux, on va dire.
Voilà. Et après, il y a d'autres jeux, par exemple, comme Brawlhalla et Life is Strange, qui ont, pareil, été écartés. Mais là, c'est pas par rapport à OpenGL, c'est parce qu'en fait, ils sont en ARM V8, donc c'est trop récent. Ce qu'il faut retenir, c'est que, globalement, tous les jeux qui sont trop récents, ça ne passe pas. Soit par rapport à leur architecture, soit par rapport à leur version d'OpenGL. Et aussi, il faut noter que un jeu qui est encore mis à jour, aujourd'hui, bah, c'est compliqué, quoi. Tu peux pas travailler sur un truc qui est encore en train d'évoluer. Donc ça c'était pour Soul Loader. Et tout à l'heure j'ai parlé des jeux faits avec GameMaker Studio, donc c'est un petit moteur de
Oui.
jeu qui est gratuit, il me semble. Mais du coup pour tous ces jeux-là faits avec qui existent et qui s'appellent du coup Yo-Yo Loader. Alors Yo-Yo c'est pas juste, c'est pas, y a pas de rapport avec le jouet ou avec une gimmick de rappeur. Hein. Parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'appelle la librairie utilisée par GameMaker Studio. Et donc du coup les avantages de Yo-Yo Loader c'est qu'ils peuvent faire potentiellement tourner n'importe quel jeu fait avec GameMaker Studio. Donc c'est fait en ARM V7,
Donc,
n'importe quel jeu.
ouais. Donc ça ouvre de grandes portes, c'est ça?
Voilà, à noter que même si c'est des projets GameMaker Studio faits pour PC, c'est possible de bind, de faire en gros une adaptation en disant telle touche de la Vita, c'est telle touche du clavier, et du coup adapter les projets PC pour être joué sur Vita ou sur une autre console avec
Ah oui,
une
d'accord.
manette.
Donc adapter toute la jouabilité d'un PC vers les contrôles de la PS Vita. C'est pas rien quand même.
C'est ça, sachant que ça demande même pas de modifier le projet ou quoi, ça demande juste en gros de rajouter un espèce de fichier qui juste précise, qui fait le lien en gros entre les touches de clavier et les touches de la console. Donc ça c'est pour Yo-Yo
D'accord.
Loader. Alors globalement, il y a beaucoup plus de jeux qui sont jouables via Yo-Yo Loader, mais c'est pas le même type de jeu. Vu que c'est des jeux Game Maker Studio, la plupart des jeux c'est soit des fan games, soit des petits jeux indés, vraiment très petits jeux indés.
D'accord.
Du coup, c'est beaucoup de jeux inconnus au bataillon qui sont pas forcément vides d'intérêt, mais c'est pas là où on va retrouver tous les plus grands hits comparés aux portages Android un peu plus classiques qui ont plus d'exposition. Par exemple, là, pareil, il y a une liste de compatibilité par rapport à Yo-Yo Loader, et là, il y a 1000 jeux répertoriés, 800 qui sont jouables. Et
Ouais.
seulement une quarantaine qui crache. Donc, en gros, sur 1000 jeux, il y en a 40 qui marchent pas et le reste, c'est bon, à peu près.
Ouais, c'est quand même, ça fait
Donc,
une grosse pelée de jeu.
c'est ça. Après, dans le jeu, dans le tas, il y a beaucoup de trucs, voilà, soit des jeux faits à l'arrache, soit des petits trucs comme ça, mais, pour ceux qui ont vraiment déjà fait le tour de leur console, bah vous avez 1000 jeux en plus à jouer, donc pourquoi se plaindre?
C'est sûr.
Même si c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas les jeux qui ont le plus grand intérêt ou la plus grande visibilité. Pour finir, même si t'as fait un article sur le site, je voulais faire une liste un peu plus complète de jeux Android qui sont portés et qui méritent probablement votre intérêt.
Et qui mérite le détour, ouais, vas-y.
Ouais, bah déjà dans les, je me suis amusé un peu à les lister par ordre chronologique, mais en gros dans les premiers, si ce n'est le premier, il y a Max Payne. Je crois que c'est peut-être même le tout premier portage Android à être fait. Le premier Max Payne de sa version Android qui a été porté, qui tourne très bien. Pour un premier jet, c'était vraiment solide. Je sais pas si tu l'as essayé toi, moi je sais que c'est pas du tout le cas.
Et je l'ai essayé, ouais, j'ai essayé. Bon, j'ai joué quelques minutes, on va dire, où tu arrives dès le début, tu es dans une ruelle et puis tu dois t'évader. C'est un peu le tutoriel en fait du début. Ouais, c'est
Ouais.
sympa, hein, franchement. Mais moi, j'avais jamais joué au Max Payne d'avant. Alors, c'était sorti sur PS2, je crois aussi, au tout début, mais
Sûrement, ouais.
j'avais jamais joué. Mais moi, disons que comme beaucoup de
Ah,
personnes, je
y
m'étais
en a un qui
dirigé
a...
directement vers les GTA.
Oui, c'est surtout qu'on en a pas manqué. Entre GTA 3 et Vice City et un peu plus tard San Andreas et encore un peu plus tard Chinatown Wars, t'avais le temps, si tu voulais, de te refaire chaque jeu un par un.
Clairement.
Dans la liste, il y a aussi RVGL qui est intéressant. Alors, RVGL, en gros, c'est le portage d'un portage. En gros, RVGL, c'est un portage OpenGL de Revolt, donc un très bon jeu de la PlayStation 1, Dreamcast. Il était sorti sur PC aussi à l'époque. Mais en gros, voilà, des fans du jeu ont fait un portage OpenGL du jeu pour qu'il tourne bien mieux sur les machines modernes.
Ça, c'est pas mal, ouais.
Et depuis ce portage OpenGL, vu que c'est OpenGL, ils en ont fait un portage Androidisé pour la Vita. Voilà, vu que c'est OpenGL et que avec Soloader on a un interpréteur OpenGL, ça passe direct dedans et ça marche. Et voilà, RVGL sur PC qui profite de quelques améliorations graphiques,
D'accord.
notamment en termes de reflets, de shaders, et qui sur Vita tourne très bien. Ça permet d'avoir la meilleure version possible de Revolt en fait, parce que les versions d'époque, bah les graphismes c'est pas trop ça. Enfin, depuis le temps c'est
Oui, c'est sûr.
Puis voilà quoi, le truc c'est que soit tu joues sur PS1, mais du coup t'as un brouillard à 3 mètres, soit tu joues sur Dreamcast, mais du coup vu que t'es sur Dreamcast, je pense que le jeu est cher. Soit tu joues sur la version PC d'époque, mais du coup bah problème de compatibilité, enfin bref. Et là du coup avec ce portage OpenGL, que ce soit sur PC ou sur ta Vita en portable, t'as la meilleure version du jeu possible.
Eh oui, c'est sûr.
Donc après, comme j'ai dit, on a eu San Andreas et Twilight Wars. San Andreas qui a pas été une mince affaire quand même. Moi, je sais que je suivais les tweets de The Flow qui en parlait pendant le développement. Entre le moment où ça a été annoncé que c'était en cours et le moment où c'est sorti, on a dû attendre quand même, hein, parce que y a eu pas mal de soucis à corriger avant de pouvoir sortir le truc dans l'état.
C'est quoi comme souci?
Il y avait des problèmes d'affichage par rapport à certains trucs. Il y avait des problèmes d'utilisation mémoire, un peu comme sur Bully, mais en moins grave que Bully quand même.
Ouais.
Parce que là, du coup, ils ont
On
réussi à
en
le régler,
parlera.
alors que Bully, je l'ai dans la liste, mais compliqué quoi. On a déjà parlé, on en reparlera encore.
Ouais.
J'en ai un dans ma liste qui est, c'est un peu exceptionnel, je trouve, parce que c'est un jeu qui est plutôt récent, en tout cas qui est bien plus récent que tous les autres jeux sortis. Et qui pourtant a eu un portage qui tourne super bien, alors qu'on aurait pu penser que le jeu est trop récent pour être porté, architecture pas bonne ou quoi, et au final non. This War of Mine a eu un portage, et le portage est très correct, ça tourne bien. C'est peut-être sa simplicité graphique qui permet en quelque sorte de le porter, parce que du coup c'est pas un jeu, enfin j'allais dire que c'est pas un jeu 3D, mais en fait non, c'est un jeu 3D, mais il est en vue de côté. C'est peut-être ça qui permet de le porter et qui fait que ça tient bien sur la
Oui.
machine. Sinon, bah, pour les amateurs des RPG, il y a eu tous les premiers FF. Donc, si on prend ces FF-là, plus ceux qui sont sur PSP, plus vous avez quoi? Vous avez peut-être la moitié des jeux FF dispo sur la Vita?
Ben,
Sur
je pense qu'on peut dire que la PS Vita
les portages en.
avec les portages et les versions PSP, c'est la machine idéale pour faire les Final Fantasy. En tout cas,
Parce que
les anciens Final Fantasy jusqu'au 10.
les portages Android, ça concerne le 3, 4, 5. Après, sur PSP, je crois, il y a eu les deux premiers et le 6, un truc comme ça.
Sur PSP, il y a eu le 1, le 2 et le
Je
3
saurais pas
et le
dire. Hein.
4.
Je suis vraiment pas un expert.
Si,
Hein.
si, ben, c'est du 1 au 4 en fait sur PSP. Le 5 et le
Ah,
6, ça
d'accord.
reste des versions
Ok.
PlayStation
Ouais, donc
1.
du coup,
Et
rien qu'avec les portages Android qui sont actualisés et les jeux PSP, on a déjà les 5 premiers, enfin les 6 premiers même. Et après, grâce à l'émulation PlayStation 1, tu les remontes jusqu'au 10, non, jusqu'au 9. Et
jusqu'au 9 et t'as le 10
après,
qui est
sur
sorti.
Vita, il y a la collection 10 et 10-2, je crois.
C'est ça.
Ouais, donc ouais, c'est vraiment. Bah, à part 13, 14, 15 et 16, du coup, ouais, ils y sont tous, quoi. Sachant que 13 et 14, c'est des jeux online de toute manière, donc. Les deux premiers Tomb Raider qui ont été portés. On a la version mobile de Dead Space qui reprend pas exactement le jeu principal, mais qui est une petite surprise aussi.
Ouais.
Quand c'était arrivé, j'étais un peu surpris. On a la première trilogie Professeur Layton. Ça aussi, c'est très cool parce que les portages Android sont assez récents. C'est des portages, je crois, qui datent de 2019-2020. Et là, le fait de les avoir sur Vita, c'est un peu, je crois que c'est un peu spécial parce que du coup, ça se joue avec la console tournée sur le côté, profiter de l'écran,
Ouais, en mode vertical.
ouais, parce que du coup, vu que c'est des jeux téléphone, et en plus vu que c'est Professeur Layton, ça se joue plus avec un écran vertical, enfin portrait que paysage. Mais bon, si vous avez que ça sur la main, ça se fait quoi, je pense. Et après, dans les derniers en date, on a Need for Speed Hot Pursuit 2010, puisqu'il y a un portage là il y a 2 semaines, 2, 3 semaines.
Eh oui.
Et là, le tout dernier en date qui est sorti, je crois, il y a 3 jours, il y a eu un portage de Geometry Dash qui est sorti. Juste là, là.
C'est pas mal quand même.
Je trouve que Geometry Dash, ça faisait
Ouais.
un moment qu'il était demandé, qu'il y avait des gens autour à se dire, ça pourrait être sympa de l'avoir, machin. Bon, c'est chose faite, du coup. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que plus le temps avance, et plus il y a des trucs qui sont cochés dans les listes de tout le monde. Et au final, quasiment plus personne aura des choses à demander, à part des trucs irréalisables.
C'est ça, ouais, c'est ça. Alors, je corrige juste pour Final Fantasy, je sais plus ce qu'on a dit, mais c'est l'épisode 3, 4 et 5 qui sont portés depuis les versions Android sur la PS Vita.
Oui.
Et sinon, en jeu PSP, on avait 1, 2, 3, 4, et c'est tout.
D'accord, donc en fait,
Donc en fait...
il manque le 6 quelque part.
Ouais, le 6, bah, il faut se rabattre sur la version PlayStation 1. Voilà. Après, la différence, pour avoir fait un peu les deux versions, la différence entre le portage Final Fantasy Android et l'original, entre guillemets, de PSP, ça reste vraiment on va dire, les graphismes qui sont, bah, ils sont un peu mieux refaits sur Android. Mais bon, moi, perso, je préfère quand même les versions PSP, hein. C'est deux styles un peu différents. On n'est pas encore vraiment sur, enfin, disons que si on préfère les pixels remaster avec un peu les graphismes dans le même style de l'époque, enfin voilà, c'est les goûts, hein. Après, moi je préfère vraiment les versions PSP, j'ai pas trop accroché aux versions Android des Final Fantasy. Et d'ailleurs, sur le Final Fantasy 4, donc il y a deux épisodes en fait, hein, sur le Final Fantasy 4, il y a l'épisode suivant qui est After Years, qui est également porté également. Donc en fait, il
Ouais.
y a quand même pas mal de Final Fantasy quand on pense à tout ça.
Grosse machine à RPG.
Ah ouais, clairement, clairement.
Bah déjà
Dans ta liste.
la Vita dans sa catalogue de base, beaucoup d'RPG, même de visual novel.
Ah, mais clairement, ouais, ça c'est sûr. Dans ta liste, moi j'aurais rajouté aussi le Crazy Taxi.
Ouais.
Même si on a eu pareil, on a eu les versions PSP, qui est du coup un peu plus complète, parce que la version PSP, on avait deux opus finalement sur le disque.
Ouais, il y avait deux
Là,
villes.
c'est juste le Crazy Taxi.
Alors que là, c'est que
Ouais, exactement.
le
Là,
classique, le premier.
voilà, le classique. Après, ce qui est bien, c'est que ça reprend un peu, bah, déjà la version qu'on a connue à l'époque, c'est-à-dire avec les chansons d'Offspring et les enseignes aussi, comme le KFC, les
C'est
choses comme
ça.
ça. C'est vrai que sur la version PSP, il y avait plus ça.
Et puis il y a aussi les missions arcade en plus qui sont pas dans les autres versions. Il y avait
Donc,
les
ouais,
missions
après, c'est vrai
arcade
que
avec
c'est.
Liquid ou Bowling et tout ça, je me rappelle.
Mais ouais, c'est vrai que refaire Crazy Taxi sur la PSP, sur la PS Vita. Bon, bah, même si on a déjà eu les versions PSP, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre.
Le seul échec restera Bully qui faut vraiment faut
Alors oui,
s'accrocher pour y jouer.
on en a parlé avec Bully. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Alors, donc Bully, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste pour ra rappeler, c'est le GTA version scolaire, quoi. T'es à l'école et t'arrives dans une université et tu dois montrer que c'est toi le plus gros caïd du bahut. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeu de Rockstar?
Ouais, en fait, bah ça, déjà de base, c'est pas un jeu avec un développement et une histoire facile. Déjà, rien que dans les versions à l'époque qui sont sorties, suivant la console où le jeu est sorti, c'est pas la même version. C'est-à-dire que en fait, la version Wii, c'est pas la même version que la PS2, la version PS2, c'est pas la même version que. Et du coup, au final, déjà, chaque console a eu sa micro-version du jeu, qui dans le contenu était identique, mais dans le fond, il y avait toujours des petites différences d'adaptation, etc. Pour la version Android, le problème vient du fait que le jeu a été pensé pour tourner avec temps de mémoire, pas plus, pas moins. Bon, autant plus, c'est pas un problème, hein. Si t'as plus de mémoire que demandé, c'est pas un problème. Mais du coup, quand t'en as moins, il y a pas d'optimisation. Et là, en gros, le problème,
Ouais.
je sais plus si c'est en termes de RAM ou en termes de VRAM, donc VRAM, mémoire vidéo. Mais en gros, c'est l'un ou l'autre. Et en gros, le jeu ne décharge pas au fur et à mesure les éléments qui chargent. C'est-à-dire que même quand un élément n'est plus utilisé, il reste chargé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et en fait, le moment où c'est plein, et ben, au lieu de vider quelque chose ou quoi, vu que c'est plein, ça fait planter le jeu, en fait. Pas la console,
Eh oui.
heureusement, mais en gros, il y a un message d'erreur, GPU crash ou un truc comme ça. Et en gros, le jeu est difficilement jouable à cause de ça. En gros, comme on a pu déjà en discuter, il faudrait sauvegarder à chaque fois avant de lancer une mission et relancer le jeu après chaque sauvegarde pour à chaque fois avoir la mémoire la plus vite possible pour éviter de faire planter le jeu au milieu d'une mission. C'est pas facile.
Ah, c'est vrai que c'est faut sauvegarder souvent, quoi, pour être sûr d'avoir une sécurité d'une certaine manière.
Sauvegarder et relancer le jeu. Parce que si tu relances pas le jeu,
Ouais, en plus.
la
Eh
mémoire
oui.
reste à moitié remplie. Et donc, du coup, tu pars déjà le pied à moitié dans la tombe, quoi. Si les développeurs du portage veulent revenir dessus, et je pense que s'ils l'ont sorti dans l'état, c'est clairement pas par plaisir. Je pense qu'ils ont essayé tant bien que mal de régler le problème, mais qu'ils ont juste pas pu, ou alors ça aurait vouloir dire retourner le jeu de fond en comble et limite le refaire à moitié, quoi.
Oui, c'est
Parce que
sûr.
je pense que c'est vraiment un
Oui,
problème qui
après,
est
ça demande
inné,
beaucoup de temps.
je pense que c'est un problème qui est inné au plus profond du jeu et que c'est impossible à changer sans refaire tout le jeu. Parce que bah forcément, ça gérer, enfin changer la façon dont sont gérées les textures, ce qui est chargé, etc. Enfin, c'est le système du jeu, donc c'est soit relatif au moteur ou autre chose. Donc c'est quelque chose de trop gros pour être complètement fixé.
Oui, c'est sûr. Il y a une question sur le chat. Est-ce qu'il y a des jeux online qui sont portés sur Vita? Alors, je sais qu'il y avait possibilité de le faire avec, il me semble, Quake ou Doom, je sais plus l'un des deux. Mais est-ce qu'il y a des jeux que tu peux jouer en ligne qui sont portés sur Vita?
Dans le cadre des
J'ai que ces
portages
deux-là en
Android,
mémoire.
non, parce que du coup, bah, déjà, c'est pour les portages Android, c'est principalement des vieux jeux, et donc du coup, bah, et en plus, c'est des portages bricolés, donc même s'il y avait encore des serveurs, t'as sûr que les portages aient la capacité de se connecter au serveur.
Eh oui.
Mais non, pour le coup, la plupart des jeux qui sont portés, dans tous les cas, c'est des jeux solo, et je pense que ça aide beaucoup, parce que si t'avais un jeu à moitié multijoueur qui essayait à chaque fois de se connecter, ou alors des jeux qui sont normalement pas jouables en offline et qui demandent une connexion internet
Ouais.
obligatoire pour lancer le jeu, rien que ça, c'est des problèmes dès le début, quoi. Mais oui, à part pour les exemples que t'as cités, bah pour les FPS de l'époque, mais à part ça, c'est principalement des jeux solo, ou alors des jeux dont les capacités multijoueurs ont été amputées, quoi.
Eh oui, je vois, oui.
Du point de vue de, alors là du coup c'est pas des portages, mais du point de vue de certains homebrew, donc des jeux amateurs, il y a de quoi jouer en multijoueur, mais là dans le cadre des portages, il y en a aucun vraisemblablement qui en propose. C'est-à-dire que c'est compliqué, ou alors faudrait modifier le jeu
Oui.
pour rediriger les parties multijoueurs vers des serveurs propres à cette version, qui sont tenus par les développeurs. Mais bon, comme on sait,
Ouais, c'est sûr que ça complexifie un peu.
ça complexifie, et surtout, bah, tenir des serveurs, c'est de l'argent, c'est du temps, donc.
Ouais. Bon, ça, ce sera l'objet d'un prochain podcast où on parlera des solutions pour jouer en ligne sur PS Vita quand les serveurs sont clôturés. Il y a toujours des solutions alternatives. On en parlera une prochaine fois, mais et voilà, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'alternatives qu'on a là pour ces portages. Est-ce que tu en as d'autres à nous citer?
Là comme ça non. Disons que j'ai cité les trois plus grands cas, sachant que voilà, comme j'ai dit,
Ouais.
pour les portages PC, c'est un peu au pif. C'est suivant ce que t'as sous la main, bah tu peux arriver à porter. Après, c'est jamais la même recette. Là où les jeux Android, c'est toujours les mêmes prérequis. Donc déjà, quand un jeu ne rencontre pas les prérequis, tu sais directement que tu peux passer à côté. Mais
Eh oui.
sinon, non. Là, pour l'instant, on
J'étais
a.
tombé sur. Excuse-moi, j'étais tombé sur. Alors, je sais plus si j'ai rêvé ou pas. Il y avait eu un portage de Command & Conquer, il me semble,
C'est pas
où j'avais
impossible.
rêvé.
Non, je pense que c'est ça, mais du coup, ça doit être un portage des versions PC de l'époque.
Ouais, c'est ça, ouais. Il y a ça. Il y avait aussi des portages de Fallout. Alors,
Ouais, je les ai cités
c'est des
rapidement, ouais.
Community Edition. Ouais. Tu en as parlé tout à l'heure.
Mais là, du coup, je viens de regarder pour Command & Conquer. En fait, il y a toute une collection multiplateforme qui existe,
OK.
qui est regroupée sur GitHub sous le nom Vanilla Conquer Vita, qui est en gros
Ouais.
c'est un fork de la page principale Vanilla Conquer. Mais du coup, la page Vanilla Conquer Vita concerne uniquement du coup la version Vita. Avec les différentes releases, dont la dernière release qui date de décembre 2023, donc c'est assez maintenu encore. D'après ce qui est dit, ça regroupe notamment deux jeux, donc ça regroupe apparemment Tiberium Dawn et Red Alert, le 1, pour les connaisseurs.
D'accord,
Donc voilà,
ouais, c'est mes préférés.
et au moins ces deux
Ok.
jeux-là qui vous attendent Sachant que,
Effectivement, à voir.
comme toujours avec les portages, ça demande de récupérer une version originale du jeu. Mais ça, c'est pas forcément plus dur si on sait où on cherchait ou si juste on
Oui, c'est vrai
possède
qu'on
le
l'a pas
jeu, hein, tout
précisé.
simplement.
Ouais. Si on possède le jeu, alors ouais, des fois, si on nous demande de la version Steam, mais la version Android, il suffit juste de récupérer les fichiers, de les mettre là où c'est indiqué. C'est pas très compliqué. Je sais
Voilà,
que si
c'est
on est
ça.
débrouillard, on peut s'en sortir facilement. Donc, une question intéressante sur les GTA 1 et 2 sur PC. Les vieux GTA, en fait, qui étaient en vue du dessus, c'est vrai que
Ouais.
est-ce que ce serait possible de les sortir? Ils étaient marrants, ces GTA.
Ouais, bah, faudrait voir s'il y a.
Techniquement, ça peut être jouable.
Oui, mais c'est jamais ça le souci. Mais je pense qu'il faudrait voir s'il y a un reverse engineering de ces jeux-là ou une
Ouais.
décompilation ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas ça, y a pas de travail qui peut être fait dessus.
Bon, après, pourquoi s'emmerder, hein? On prend les versions PS1, PS1, et puis voilà, hein, finalement,
Ouais, dans les grandes lignes,
il y a ça
même
aussi.
si les versions PS1, c'est pas les versions les plus propres. Après, j'étais presque à deux doigts de répondre directement dans le chat. Mais du coup, je pense aussi que c'est des jeux qui n'intéressent pas grand monde. C'est sûr que comparé à GTA 3 ou aux autres, ça fait pas le figure, quoi.
C'est sûr que quand tu dois choisir, c'est sûr.
Même dans la communauté de fans, personne va dire, oh, GTA 2, c'est mon préféré. Non, GTA 3 à la limite.
C'est sûr.
GTA 3 à la limite, si on fait part de la jouabilité de l'époque qui était pas la plus fluide, mais non, c'est vrai que les deux premiers, c'est des jeux qui sont un peu boudés pour de bonnes raisons, hein, on va le dire. C'est surtout, de toute façon, c'est surtout avec GTA 3 que ça a vraiment commencé, quoi. En fait, les deux
Ouais,
premiers, c'était
clairement,
plus,
clairement.
déjà que le premier, c'est un peu une démo et que le 2, c'est le vrai premier jeu bien fini. Le 1 avec le recul, il est un peu dégueulasse, quoi. C'est vraiment le 2 qui est bien fini. Et après, c'est surtout GTA 3, quoi.
C'est vrai que les deux premiers GTA, c'était il y a le côté nostalgique qui fait son petit effet parce que quand tu as commencé dessus, c'est vrai que
Ouais,
voilà, c'est
faut.
marrant. Mais c'est vrai que ça pique les yeux, c'est très particulier quand
Bah,
même.
faut les avoir connus à l'époque, hein. Sinon, c'est impossible.
Oui, voilà.
Moi, je
Après, si
peux.
on veut un
Oui, bah.
GTA en vue dessus, il faut passer sur Chinatown Wars qui est aussi pas mal,
Moi, je
qui reprend un
veux.
peu ce concept en vue de dessus.
Moi, je peux jouer à GTA 3 sans aucun souci, mais remonter plus loin que ça, c'est pas possible. Et oui, en vue du dessus, Chinatown Wars est une pépite. Et en vue du dessus, il y avait aussi GTA Advance, mais c'est un jeu un peu moyen, donc je veux plutôt à Chinatown Wars. Chinatown Wars, honnêtement, que ce soit en termes de gameplay ou de scénario. En fait, la plupart des gens qui boudent Chinatown Wars, c'est parce que c'est des gens qui ont y joué sur PSP. Et forcément sur PSP est passé après les deux épisodes Stories qui étaient bien plus grands et ambitieux. Mais bon, forcément, quand on parle d'un jeu DS à la base, c'est pas en le mettant
Ouais.
sur PSP que ça fait des miracles. Mais franchement, il a pas grand-chose à envier au reste. C'est un jeu plus simple, mais qui se tient très bien. Et pour ma part, en termes de scénario, c'est top 3 GTA ever. Hein. Je suis d'un
OK.
avis que ce jeu mériterait un remake en 3D, mais Rockstar est déjà bien trop occupé.
Ah bah oui, ça c'est un autre problème ça.
Et du coup, voilà, j'ai fini avec mon petit historique de portage. C'était un peu chouette de revenir là-dessus.
Eh ben, ouais, c'était bien, c'était intéressant. Surtout que, ben, en fait, j'ai l'impression que, honnêtement, hein, beaucoup de gens connaissent la PS Vita un peu par cet intermédiaire. Alors, on peut penser ce qu'on veut, hein, mais finalement, ça permet de donner une seconde vie à la console. Et moi, je dis pourquoi pas. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en avait parlé sur le site, sur Planète Vita, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. D'autant plus que, on l'avait dit tout à l'heure, mais ça a commencé en 2018, tu avais dit, ce qui est totalement. Alors, ça, c'est lié au piratage de la PS Vita. Qui a quand même mis du temps avant de se faire. Voilà.
C'est ça. Pour tout ce qui est Doom, Quake, etc., c'était vers 2018-2019. Pour ce qui est du portage de GTA 3, c'était janvier 2021. Et après les portages Android, ça arrivait un peu plus tard dans l'année 2021, il me semble, voire même peut-être début
Ouais.
2022. Mais je crois que c'était vraiment vers milieu fin 2021 que ça a vraiment commencé.
Ouais, et on peut quand même aussi parler de, bah, des act principaux acteurs de ces portages. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais ça tourne très souvent autour des mêmes. Il y a The Flow qui a fait pas mal de boulot. Et, alors, le pseudo, j'arrive jamais à le dire.
Je peux te le dire si tu veux.
Renegatamente, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, vas-y.
Non, non, c'est ça, tu l'as bien
Ouais.
dit. Mais moi, je dis, moi, j'aime bien dire Reed pour simplifier.
C'est pas mal, ouais.
Sachant que du coup, depuis que The Flow a quitté la scène PS Vita pour se concentrer notamment sur la PS4 et la PS5, Rin se retrouve un peu tout seul. Mais vu que les bases sont déjà bien établies, bah il gère ça tout seul tranquillement. Tu vois
À
là.
son rythme, quoi.
Ouais, c'est ça. Même si même s'il y en
Mais
a
ouais.
moins qui sortent entre-temps, le plus gros a déjà été fait. Donc pour le reste, il n'y a pas
C'est
trop à se
sûr.
plaindre globalement.
C'est sûr, c'est sûr. J'avais vu aussi, alors j'étais tombé dessus un peu par hasard, il faudrait que je retrouve le lien, j'avais vu une équipe de Russes qui en fait ont repris justement les portages de GTA qui sont parus sur la PS Vita et qui ont fait des versions améliorées Anniversaire Edition, je sais pas quoi. Ça s'appelait PG Book. Alors ils avaient un guidebook mais qui n'existe plus. Donc voilà, c'était une bande de... Je pense qu'ils y sont encore quelque part, hein. Ils avaient fait ça avec les portages de GTA. Ils ont fait pareil avec Max Payne et ils avaient lancé aussi le même délire avec Minecraft sur la version PS Vita. Donc à rechercher, ça s'appelle PG Book. Mais le lien que j'avais trouvé à l'époque ne semble plus fonctionner, donc ça va pouvoir se retrouver avec Google. Donc, je ne sais pas si tu avais vu ça à l'époque.
Pas du tout, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout.
Ouais, là j'ai retrouvé un vieux Reddit, ça parle, donc c'est GTA Revisited Trilogy by PG Team. Bon, PG Team, alors ça s'appelle. Et le lien que j'avais n'est plus valide. Ils se sont peut-être fait supprimer ou je sais pas quoi. C'est dommage. Mais voilà, c'était. Alors il y a encore des trailers sur YouTube, peut-être
Ouais.
on peut les retrouver, mais ils avaient fait ça comme si, en fait, après, tu avais un peu l'impression d'avoir une version trilogie comme celle qui est sortie sur les consoles actuelles, mais encore en mieux, en fait, finalement, avec moi, sans les bugs et tous les problèmes qu'on a pu
Ouais.
entendre. Mais c'est vrai que c'est bien qu'on ait les Rockstar comme ça sur PS Vita. Finalement, on avait que dalle. Le seul truc Rockstar qu'on a eu officiellement sur la PS Vita, c'est quand même un truc à la con. C'est une application pour faire ta plaque d'immatriculation pour ensuite l'utiliser dans GTA 5 sur la PS4, quoi, ou la PS3, mais
Ah
ça servait
oui,
absolument
ouais.
à rien.
C'est
Et tu pouvais aussi jouer
ouais.
avec le chien aussi.
C'est ça, ouais.
Aucun intérêt, quoi.
Je me rappelle de l'application, ouais. Bah,
Je me souviens plus.
c'était la mode des applis compagnons à l'époque où
Exactement.
chaque triple A avait sa petite appli téléphone, soit pour afficher la map, soit pour faire 2-3 trucs bonus par rapport au jeu.
Ouais. Le concept était marrant, mais là, franchement, ça servait un peu à rien. Et c'est dommage que c'est le seul truc qu'on ait eu officiellement de Rockstar, finalement, sur cette console.
Ouais, et puis surtout que c'est, enfin, je pense qu'ils se sont, enfin, c'est une appli mobile qui existait à côté, donc ça se fait, ils ont juste fait un portage
Oui,
bateau,
c'est ça.
donc c'était vraiment effort
Ouais, ils sont pas
zéro.
pris la tête.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ah ouais, c'est zéro effort. Ils sont pas pris la tête. Ils ont dit, on vous sort ça dessus et faites-nous pas chier.
Au moins c'est sorti, mais.
Effectivement. Alors, je vois sur le chat, il y a d'autres personnes qui parlent effectivement des petits portages qu'on a oubliés, mais il y en a tellement. Il y avait le Cuphead. Donc, je crois qu'il y avait eu que un ou deux niveaux qui ont été portés pour l'instant, je crois.
C'était pas un
Si je me trompe
portage.
pas.
C'était pas un portage.
C'est pas un portage.
De ce que je me rappelle, en gros, c'est de ce que je me rappelle, c'est des amateurs qui avaient en gros tenté un mini remake, mais il me semble pas que ce soit un portage.
Parce que visuellement, le Cuphead était quand même pas mal. Hein. Franchement, même en temps normal, il est vraiment très joli ce jeu. Et je crois que sur la version PS Vita qui a été faite, justement, tu as un bout de niveau avec un boss, je crois.
Ouais, tu vois, là je viens de lire un truc, Cuphead recréé avec Unity, donc recréé, donc c'est pas le vrai jeu, enfin Comme je t'ai dit, quoi, c'est une espèce de remake du coup fait sur Unity. Et du coup, effectivement, il n'y avait que le premier et le deuxième boss dedans. Et du coup, c'est pas un portage. Sur certains sites de Homebrew, il y a moyen que que ce projet-là soit répertorié dans le portage parce que c'est ce que le plus proche. Mais il faut faire un peu attention des fois parce que c'est pas forcément tous des portages. Voilà, sur certains, il y a un peu de flou autour. Faut pas hésiter. De toute façon, une fois que vous êtes sur la page GitHub, vous avez tous les détails, vous pouvez pas vous tromper. Les mecs vont pas s'amuser à mentir en disant que c'est un portage alors qu'en fait non. Mais c'est souvent les sites de Homebrew qui mettent le tag le plus proche pour définir le jeu. Et là, forcément, vu que ça ressemble au jeu original, on va dire portage, mais c'est pas forcément tous des portages. Après, des cas comme ça, il y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment un ou deux trucs par-ci par-là. La plupart sont de vrais portages.
Et pour le. Bon, on parle aussi sur le chat pour le Simpson, le jeu Hit and Run, qu'il a essayé. Alors, c'est Opiouf qui dit qu'il l'a tenté, mais ça plante à l'écran de chargement. Je sais
Ouais.
pas s'il fonctionne vraiment ce jeu.
Mais en fait, c'est un projet. Le projet est dispo sur plusieurs plateformes. Il me semble que sur Switch, ça marche beaucoup mieux. Et que sur Vita, ils sont un peu encore dans les balbutiements. Mais de ce que je crois avoir vu, la version Switch est bien mieux, car mieux finie, en tout cas pour l'instant.
D'accord. Et là, c'est quoi? C'est du portage aussi ou non? Parce que le jeu est sorti quoi? C'était sur PS2, ça, à la base. Et PC,
Ouais, PS2, PC, ouais. PS2 PC, mais là c'est là il me semble que c'est pas un portage du jeu original. Je crois que c'est un portage du. Il y a eu un projet de remaster et je crois qu'ils se sont basés sur le remaster pour à moins que je me trompe, mais après je pense que le remaster se base de la version PC, donc dans toute manière on retombe sur nos pattes.
Ok, et bah écoute, et bah merci à toi.
Ouais.
Nous allons maintenant retrouver un jeune joueur qui s'appelle César et qui va nous raconter son aventure et toute son histoire liée à la PS Vita.
Bah du coup moi je m'appelle César, j'ai 16 ans. J'ai commencé à jouer à la PS Vita en 2014 quand j'en avais 7. J'ai eu la console le jour de mes 7 ans du coup à mon anniversaire. Pour la petite histoire du coup en fait de base bah du coup j'étais à l'anniversaire d'un pote quelques mois plus tôt. Ce pote en question avait une 3DS. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis pris de passion pour les consoles portables. Donc, enfin, il avait, ouais, je sais plus si c'était une 3DS ou 2DS, ça remonte un petit peu maintenant. Et donc, bah du coup, j'avais joué à Smash Bros sur sa 2DS et j'avais adoré direct, j'étais scotché au truc. Et du coup, dans ma famille, enfin, c'était surtout mon père qui jouait. Il était vachement plus Sony que tout ce qui était Nintendo, Xbox et tout ça, parce qu'il avait un peu touché et il avait pas du tout accroché au délire. Du coup, ouais, quand je lui avais parlé que j'aimerais avoir une console portable pour mon anniversaire, il voulait au début m'acheter une PSP. Sauf qu'en bas, en 2014, les PSP se produisaient plus. Et bah, c'était l'époque de l'apogée de la Vita, entre guillemets. Du coup, bah, le jour de mon anniversaire, j'ai pu la déballer. À l'époque, je l'avais eu en pack avec, du coup, une carte mémoire de 16 Go. Un petit pack de jeux, je sais plus trop ce qu'il y avait dedans. Bah, il y avait Wipeout Pulse, Gran Turismo, version PSP. Il y avait quelques jeux Vita comme Mod Nation Road Trip. Et y avait quelques petits jeux qui m'avaient permis de commencer à jouer à la console sans être là à avoir rien du tout. Donc, j'avais pu
Ouais,
déjà.
c'était le pack avec les c'est le c'était un code des codes à télécharger, c'est
Oui,
ça?
ça devait être ça, ouais.
Avec la carte mémoire.
C'est
Ouais, je vois.
ça devait être ça.
Donc c'était la Slim que tu avais.
Non, la FAT. J'ai la FAT.
Ah, c'était... Ah, d'accord. OK.
Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, du coup, il y avait aussi les démos sur le PS Store. J'en avais installé quelques-unes, notamment Sonic All-Stars Racing Transform, qui est une masterclass, je trouve, sur la console. Il y avait aussi Rayman Origin, que j'ai pu essayer. Et puis, c'était vraiment les deux premiers
Ouais.
jeux. Enfin, au début, je jouais aux démos en boucle. Et très rapidement, du coup, mon père a vu que je m'étais pris de... que j'avais adoré ces deux jeux-là. Du coup, il me les a achetés directement en physique. Et bah il y avait aussi l'époque la fameuse époque Minecraft où tout le monde jouait à Minecraft et donc du coup vu que moi c'était un peu ma seule console, j'ai eu aussi la version physique de Minecraft sur PS Vita donc j'ai vraiment commencé à jouer à Minecraft sur Vita. Des fois je suis un peu nostalgique quand je retourne dessus parce que ça me rappelle tout ce qui est les musiques etc, les mondes
Eh
assez
oui.
petits, la pâte graphique. C'était quand même un autre univers que ce qui était vraiment pas dégueu, je trouvais.
Mais ouais, j'ai vraiment commencé à jouer sur Vita avec ces trois jeux-là, tout en jouant aussi aux jeux que j'avais eu avec le pack directement. Je jouais vachement à Mod Nation pour le côté création que j'adorais aussi à l'époque, le fait de pouvoir créer son propre circuit de fond en comble, son personnage, son carte, etc. J'avais adoré ce système. Et donc ouais, j'ai vraiment commencé à jouer à la Vita avec ces jeux. J'avais pu aussi essayer quelques jeux après, surtout des jeux PSP. Vu que bah en parallèle j'avais la PS3 à ce moment-là et donc j'avais quelques jeux comme l'excellent MotorStorm sur PS3, le Pacific Rift et l'Apocalypse que toi aussi je crois que t'aimes beaucoup.
Je l'apprécie beaucoup. Ouais. Il y en a trois hein, sur la PS3. Il y a le MotoStorm classique, le Pacifique et puis le Apocalypse, effectivement. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, ils sont vraiment bien ces jeux.
À l'époque j'avais grave kiffé. Donc du coup sur la Vita j'avais eu gratuitement le MotorStorm RC avec la vue du dessus. Là on a des petites voitures téléguidées que je trouvais très
Ouais.
marrant. Et donc je m'étais acheté aussi sur du coup en version PSP depuis le store directement le MotorStorm Arctic Edge que tu dois peut-être pas forcément connaître,
Si,
mais qui au niveau du game
il est bien.
du coup en fait au niveau du gameplay c'est assez proche de d'Apocalypse
Ouais.
et de Pacific Rift. C'est super fun, il y a quand même pas mal de circuits, il y a pas mal de voitures, on est vraiment sur du MotorStorm pur et dur, donc c'est arcade, c'est simple, c'est efficace. Il y avait aussi le Midnight Club Los Angeles Remix que je m'étais pris à l'époque, que j'avais adoré vu que j'avais le Los Angeles Complete Edition directement sur la PS3. Comme ça, je pouvais un peu avoir le parallèle, par exemple, quand je partais en vacances ou autre, continuer un peu à jouer sur la version différente. Mais ouais, j'étais vachement
Oui,
axé jeu de voiture
c'est
à l'époque et un peu jeu de plateforme vu que mes parents serraient la vis sur tout ce qui était jeux violents. Donc, il y a eu pas mal de jeux où je suis passé à côté pendant quelques années, notamment Killzone. Après, il y a eu Call of Duty, mais bon, j'ai vu que j'avais pas raté grand-chose. Mais vraiment, Killzone, j'étais passé à côté. Jusqu'à ce que bon, il me sert plus trop la vis quand j'ai eu la PS4, que j'ai pu jouer à quelques FPS, enfin quelques FPS plus jeux de tir du genre Fortnite, vu que tous mes potes y jouaient dessus. Et donc ouais. Après ouais, j'ai pu rattraper et tester d'autres jeux. J'avais aussi joué au Wipeout 2048, mais ouais, j'ai un peu tout touché. Et vu que j'en reste encore très nostalgique aujourd'hui, j'y joue encore souvent. Et il y a quand même vachement de jeux que j'avais bien kiffé, ouais.
sur le Wipeout 2048, t'as énormément de choses à faire. Alors, je sais pas si t'avais pris, il y a les DLC aussi dessus.
Pas du tout, non. En fait, quand j'ai commencé à y jouer, les serveurs étaient déjà fermés
Ouais.
malheureusement et
Ah
j'avais
merde.
pas de DLC. Du coup, j'ai juste la version basique simple du store. Vu que y a eu un moment où
D'accord.
j'achetais plus aucun jeu en cartouche en fait parce que j'avais trop la flemme de me déplacer. Donc du coup, je mettais juste mon mode de paiement en carte bleue et puis ensuite j'achetais tous mes jeux sur le store. Vu que très rapidement
D'accord.
j'ai vu que les jeux en physique coûtaient vraiment leur prix quoi selon le jeu que tu voulais choper. Quand j'ai vu que P4G en version boîte t'étais aux alentours des 100 balles, j'ai vite compris. Mais sinon, ouais, du coup,
Donc
j'ai...
P4G
Ouais,
Persona.
Persona 4 Golden, du coup.
Ouais.
Du coup, ouais, il y avait ouais, Wipeout, que j'ai vachement joué en démat. Enfin, j'ai vachement joué. J'avais fait un bon bout de la campagne. Parce que du coup, vu que j'avais vachement poncé Wipeout Pulse, j'ai vu qu'il y avait un épisode spécialement conçu pour la Vita. Et puis ouais, j'ai vraiment vu la différence hein, niveau résolution, graphisme et tout
Ah bah
ça.
c'est sûr.
Et direct, genre, j'ai adoré le jeu. Je me suis dit, voilà, en fait, on a vraiment. J'ai trouvé vraiment le jeu incroyable pour de la Vita. C'est un peu un incontournable. Ça fait partie des must-have avec tout ce qui est Uncharted, Killzone, etc. Mais ouais, j'avais vachement kiffé le Wipeout.
Ah ouais, non, même encore aujourd'hui, ce jeu, alors faut se dire qu'il est sorti vraiment. Il est sorti en même temps que la console. Et encore aujourd'hui, franchement, visuellement, il tient vraiment la
Ouais,
route.
il claque, ouais.
Il est
Il
impressionnant.
claque. Il claque de fou, je trouve.
Et alors là actuellement, tu nous as fait l'historique. Là actuellement, tu es sur quel type de jeu sur la si tu es encore sur Vita?
Alors, du coup, actuellement, je suis sur GTA Vice City Story, avec du coup un pote à moi, Melo, qui est aussi sur le serveur. On a fait vachement de jeux en ligne ces derniers temps. Donc, du coup, il y avait NFS Most
Ouais.
Wanted que j'ai pu découvrir. Et vraiment, genre, j'ai trouvé le jeu super. Ça tourne parfaitement sur Vita, même si on sent hein, que la version est quand même vachement compressée graphiquement et tout ça. Ça tourne
Ouais, c'est
parfaitement
sûr.
sur Vita. Il n'y a pas de baisse de framerate, de bug ou autre. Mais franchement, ouais, j'ai joué en ligne avec lui. J'ai adoré parce que bah enfin, je savais déjà à peu près à quoi m'attendre parce que j'ai fait quelques opus genre Rivals, qui est sorti, je crois, avec un an d'intervalle sur les consoles de salon, qui niveau gameplay est assez similaire pour tout ce qui est pilotage, mécanique à comprendre, etc. C'est, mais ouais, j'ai vachement joué à NFS. Il y avait bah du coup là actuellement je pense vraiment Borderlands 2 avec aussi le système de cross-save. C'est-à-dire que quand je me fais des sessions tout seul, je joue directement sur ma PS5 avec la version PS4 du jeu. Et par exemple quand j'ai envie du coup de jouer en coop avec Melo, bah du coup je passe sur la Vita, hop, je télécharge ma save de la PS5 et puis je continue à jouer avec exactement la même save sans avoir rien perdu
Ouais.
directement sur ma Vita et ça je trouve ça incroyable.
C'est vrai que la fonctionnalité cross-save, c'est vraiment un truc. Aujourd'hui, ça paraît presque
Ouais,
normal, mais à
à
l'époque,
l'époque
c'est vrai que
c'était ouais.
c'était. Je pense que c'était. Je pense même que c'était les premiers à le faire, vraiment, que ce soit cross-save, cross-play, cross tout ce qu'on veut, cross-buy. Le cross-save était vraiment. Est toujours vraiment intéressant de pouvoir commencer sa partie sur un support et de le continuer sur un autre. Bon, même si ça sous-entend que des fois, bah, il faut acheter deux fois le même jeu, si c'est un support physique, par exemple.
Bon,
Mais
ouais.
c'est vrai que c'est très
Je l'ai,
intéressant.
ouais.
Peut-être qu'un jour, on fera une liste,
Je
mais
l'ai
bon.
pas payé cher le Borderlands 2 sur Vita, je l'avais trouvé en loose directement en physique, donc je l'ai pas payé cher. Et puis bon, vu que
Ouais.
dans le magasin directement ils m'ont dit ouais que le portage il était foireux, mais puis bon, vu que j'ai un peu bidouillé ma Vita, j'ai un peu amorti le choc, mais bon, faut vraiment se le dire hein, entre nous. Borderlands 2, enfin en tout cas la version Vita, c'est vraiment pas la meilleure version si vous voulez découvrir le jeu là en 2024. Pour le peu que t'aies une console de salon, même une PS3 où tu vas pouvoir tourner en 30 FPS constant sans aucune baisse, lag, crash en plein milieu d'une zone parce que t'es allé dans l'inventaire ou autre, c'est sûr que ouais, voilà, enfin faut. La version Vita est sympathique, enfin en tout cas j'y joue pour pouvoir jouer en coop avec Melo, mais sinon si par exemple il y aurait eu un crossplay sur la version PS4 directement, j'aurais jamais essayé la version Vita, enfin j'aurais essayé comme ça pour voir rapidement, mais sinon ouais c'est j'ai pas persévéré. Alors attends, parce que du coup il y a une question de
D'accord,
la
ouais.
pourriture dans le chat qui me demande
Qu'est-ce qu'il
si
dit?
moi et mes potes de ma génération, on en pense quoi du démat? On dirait que le physique n'a pas d'intérêt à entendre. Alors personnellement,
Bonne
le
question.
physique, personnellement, hein, m'a permis de voir pas mal de jeux, enfin d'avoir pas mal de jeux à un prix bien moins élevé que je pourrais les trouver directement en démat, parce que bon, bah on n'est pas sur PC avec plein de stores et de launchers qui nous permettent de comparer un peu les prix. Il n'y a pas Instant Gaming, il n'y a pas tout ça. Du coup, bon, en démat, faut vraiment être là à regarder les promos qui arrivent sur les stores de PS4, PS5. Mais sinon, ouais, quand je cherche un jeu en particulier, je vais regarder en premier le prix en démat. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pour Borderlands 2. Parce que, bah, il est très dur à trouver en version physique. Et la seule version physique que j'ai réussi à trouver dans ma ville en fouillant vraiment quasiment tous les magasins, quand j'ai vu l'état du disque avec toutes les rayures et tout, bon, j'ai fait, bon, bah, tant pis, hein, je vais prendre le jeu à 40 balles.
Ouais,
Au
c'est
moins,
sûr.
j'ai la collection avec le 1, 2, tous les DLC, etc. J'ai fait, bon, c'est pas grave. Mais sinon, ouais, les trois quarts du temps, bah, en fait, quand je dois aller me prendre un jeu, en particulier, je regarde en démat. Si je vois que le prix me paraît trop élevé, je regarde pour les magasins qui vendent les jeux en physique. Sinon, ouais, après, ça dépend, hein. C'est vraiment, vu que j'achète pas constamment des jeux, ça dépend vraiment. Et puis, je suis vachement à regarder le prix un petit peu, l'état de la boîte aussi, parce que bon, ça m'est déjà arrivé de tomber sur carrément, genre, la boîte, tout le plastique était rongé de partout, il y avait des bouts qui manquaient. Le disque il était pas stable à l'intérieur, du coup bon j'évite mais sinon ouais ça m'est
Ouais.
sinon ouais la plupart du temps je me redirige vers le physique parce que je trouve ça plus ça reste un peu old school quoi, enfin je sais pas, j'ai commencé sur PS2, tous les jeux étaient en physique, du coup j'aime bien en fait
J'allais justement te demander en fait pour avant la PS Vita, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme console et sur quoi vraiment tu as commencé ta carrière entre guillemets?
Alors, faut savoir vraiment que j'ai commencé assez tôt, mais pas vraiment. En fait, déjà, j'avais un grand frère qui avait 6 ans de plus que moi, du coup, lui qui jouait. Et donc à l'époque, on avait la PS2 pour commencer avec du coup pas mal de jeux parce que au début c'était mon père qui y jouait, ensuite c'était plus mon frère. Pour te citer quelques exemples, bon c'était il y a vraiment très longtemps, hein, j'étais vraiment petit, du coup j'ai pas tout en tête. Il y avait le jeu Cars, il y avait San Andreas surtout,
Ouais.
il y avait
Ça.
Wipeout sur PS2, Pure je crois, je me souviens plus du nom
Ouais.
exact. Non, Wipeout Fusion, voilà. Wipeout Fusion.
Il y en a deux sur la PS2, il y a Fusion et ils ont sorti. Alors je confonds toujours Pulse et Pure, mais l'un des deux, ouais, effectivement.
J'avais Wipeout Fusion, Midnight Club 3 deuxième édition, et c'était vraiment bon, il y en avait d'autres mais je me souviens plus trop, mais ouais, c'était vraiment la PS2 qui m'a fait découvrir le monde du jeu vidéo. À l'époque, on y jouait vraiment sur un vieil écran de chaînifié avec mon frère, c'était la bonne époque, ouais. Et donc j'ai au début commencé sur PS2. Ensuite, j'ai eu la PS3 en ultra slim avec 12 Go de disque dur avec un petit pack de jeux dont Midnight Club Driver San Francisco qui est pas mal du tout et
Je confirme.
vachement de jeux de voiture que en fait j'ai toujours vachement joué à tout ce qui était jeux de voiture, arcade, etc. Ça, je continue encore aujourd'hui mais un peu moins, je me suis un peu diversifié. Et donc ouais, j'ai vachement commencé ouais sur PS2, PS3. Ensuite, j'ai eu du coup la Vita qui était ma console à moi pendant que mon frère lui était sur sa DSi. Et puis ensuite, j'ai eu la PS4 vers 2018, en même temps que tout ce qui était le Prime de Fortnite, etc. Où j'ai pu vraiment commencer là à jouer en ligne avec mes potes parce qu'avant, bon, je jouais quasiment que en local en fait. J'ai jamais joué en ligne, hormis sur des jeux de téléphone rapides. Ensuite, là, très récemment, du coup, à Noël, je me suis pris la PS5 et puis ouais, je suis jamais sorti du coup de chez Sony. J'ai fait vraiment quasiment toutes les étapes, hormis la PS1 et la PSP. Mais je suis vraiment resté chez Sony d'un bout à l'autre. J'ai gardé le même compte PSN d'un bout à l'autre. Du coup, c'est assez rigolo parce que je me suis rendu compte que j'ai jamais bougé en 9, 10 ans de jeu maintenant, quoi.
Eh oui, ça passe vite.
Effectivement.
Ok, et donc tu disais que actuellement tu jouais, enfin tu avais joué à Borderlands et Need for Speed avec un pote en réseau. Est-ce que tu as d'autres idées de jeu pour plus tard? Tu dis, ah, celui-là, je vais le faire plus tard,
Ah,
ou
j'en ai
est-ce que
vachement,
tu as
mais
des idées de jeu à la suite?
le temps m'en prive un peu, j'en ai vachement. Déjà, je voulais me finir le Assassin's Creed 3 Libération, en sachant que j'avais jamais joué à Assassin's Creed de ma vie avant. C'était vraiment avec cet opus-là que je l'ai découvert. Où beaucoup m'ont dit que bon, c'était pas du tout le meilleur, c'était pas du tout le meilleur opus pour découvrir la série. Et puis bon, j'ai essayé, j'ai bien aimé, le délire était assez sympa. J'ai toujours été un très gros friand des open world. C'est pour ça aussi que je suis un très très gros fan de GTA et même des jeux Rockstar de base. Mais ouais, je suis un très gros friand des open world. Du coup, Assassin's Creed, j'ai plus ou moins apprécié, même si c'est pas hyper fluide. Mais bon, en bidouillant, bon, ça passe. Mais ouais, du coup, il y avait Assassin's Creed Uncharted que j'ai jamais joué, alors que pourtant, c'est vraiment censé être le jeu qu'il faut absolument tester sur Vita.
Ah, il faut, oui.
J'ai
Ouais. Moi, c'est le seul Uncharted que j'ai fait, en fait. C'est celui-ci. Et franchement, je te le recommande. Il est vraiment génial.
Parce que ouais, en plus, j'ai acheté la Nathan Drake Collection avec les trois premiers en version PS4 pour
Ouais.
PS5, dans l'optique justement de pouvoir aussi me voir un peu l'histoire de d'Uncharted avant de faire le Golden Abyss sur Vita. Mais ouais, dans ma liste, une fois que je serai vraiment rentré dans le délire de faire vraiment tous les Uncharted d'une traite, Golden Abyss sera dans ma liste et ça c'est sûr. Il y avait donc quoi ouais, j'ai dit assez Uncharted. Du coup après ouais j'en ai fait. C'était vraiment ces deux-là. Après j'en ai pas d'autres en tête, mais ouais si on a. Déjà faut que je finisse ce que j'ai là, faut que je me finisse Vice City Story. J'aimerais bien aussi un jour peut-être essayer Xlinkai qui m'a l'air d'être un très bon moyen de raviver quelques jeux en ligne,
Ouais.
notamment Wipeout, qui va du coup même si les serveurs sont finis, on a quand même un mode ad hoc qui nous permet de jouer. Enfin qui je pense avec Xlinkai peut toujours être un truc à essayer, mais ouais j'ai vachement de choses à essayer sur Vita que j'ai jamais eu le temps d'essayer. Parce qu'entre deux, faut gérer pas mal de trucs pour tout ce qui est session de jeu avec des potes, etc. On est un peu tous débordés par le temps, j'ai l'impression, pour faire plein de jeux en même temps.
Exactement, exactement. Alors, vu que tu évoques Xlinkai, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution pour jouer aux jeux qui ne possèdent plus de mode en ligne. Donc l'intérêt en fait, c'est de passer par le mode ad hoc. Donc le mode ad hoc, c'est quand on joue en local et entre deux personnes qui sont en mode ad hoc, eh ben on passe par un serveur en fait. Donc ça permet de jouer au mode ad hoc et de en étant en ligne en fait. Donc moi je l'avais connu là pour la première fois sur la PSP, ça j'ai m'été servi à l'époque sur pour Monster Hunter. Et ça m'a beaucoup servi puisque Monster Hunter n'avait pas de mode en ligne, mais il avait un mode ad hoc, donc pour trouver d'autres personnes et aller se battre contre des monstres, c'était plutôt pas mal. Et donc sur PS Vita, il existe, il a été mis en place depuis pas très longtemps. Je crois que c'est depuis la fermeture du serveur de Freedom Wars qu'ils nous ont sorti une compatibilité avec les jeux PS Vita. Donc évidemment, ça ne permettra pas de jouer à des jeux comme Killzone, par exemple, qui ne possède pas de mode ad hoc.
Bon, après Killzone, ça sera à remédier, ça, Killzone, ouais, d'ici pas longtemps.
Voilà, c'est ce qu'on avait déjà parlé sur le Discord. Mais voilà, vous avez une liste des jeux qui possèdent un mode ad hoc sur le PS Vita sur le site Planète Vita. Donc, vous pouvez vous baser sur cette liste pour voir avec qui vous pouvez jouer, en tout cas avec quel jeu vous pouvez jouer. Et voir qu'un pote qui habite à l'autre bout de la France, par exemple, pour jouer avec lui en réseau.
Mais ouais, il y a...
Donc, ouais, Xlink Kai, ça demande juste une petite... alors, il y a plusieurs manips à faire pour l'installation. C'est peut-être, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais voilà, ça peut valoir le coup. On est plusieurs sur le Discord à l'avoir installé.
Mais ouais, Xlink Kai, pareil. Bah, du coup, par exemple, d'autres jeux, comme tu l'avais cité, qui n'avaient pas de mode en ligne tout court, en fait, et juste un mode ad hoc. Bah, par exemple, Mod Nation Racer Road Trip, qui n'a pas de mode en ligne.
Exactement.
Et qui a du coup juste un mode ad hoc. Ou permet, bon après voilà, il faut quand même que de base dans le jeu il y a un mode ad hoc, et juste un mode ad hoc ça demande pas d'avoir un mode en ligne ou pas, c'est vraiment genre juste une fonction ad hoc, et ensuite bah du coup Xlink Kai va prendre le signal de la console, le transférer sous forme de wifi, et puis ensuite ouais ça marchera comme du mode en ligne. Et c'est assez cool parce que du coup il y a pas mal de jeux PSP, notamment le Gran Turismo qui a pour le mode en ligne juste du mode ad hoc. Ils ont bah du coup avec Xlink Kai, c'est possible, je pense, de faire des courses. Pareil, il y a les fameux GTA Vice City Story, Liberty City Story, oui, et Chinatown Wars que j'aimerais bien essayer, mais bon, j'ai pas encore trouvé précisément comment faire. Mais ouais, ces GTA-là avec le mode ad hoc, avec Xlink Kai, du coup, on peut s'en servir. Et ça peut être assez fun parce que étant un très grand friand de GTA, ça peut être très très rigolo de voir vraiment les débuts en ligne de cette licence phare et pour voir un peu comment ils avaient fait ça à l'époque. Même si j'ai vu quelques vidéos, ça avait l'air d'être assez assez rapide et efficace. Hein. C'est vachement sur des modes de jeu, mais bon, il y a vachement de...
Ouais, c'est très basique. Hein. T'as pas, c'est pas comme le GTA 4 ou le 5,
ouais,
où tu crées carrément ton personnage et que tu crées ta carrière. Là, c'est juste des petites sessions où il faut tuer le plus de gens possible.
Ouais, ouais, mais c'est...
Ça. Mais c'est marrant,
c'est
quand même
marrant parce qu'on peut se croiser, on peut se tuer, chacun peut prendre, ouais, sa voiture, faire la course d'un point A à un point B. On reste quand même sur les fondamentaux de GTA en fait, qui bah consiste, ouais, à se battre avec tout le monde, voler des voitures, un peu foutre la pagaille en ville. Et c'est toujours ce que j'aime bien, c'est de voir, parce que j'adore vraiment les GTA old school. J'ai adoré le San Andreas, j'ai vraiment des centaines d'heures dessus, j'ai jamais su m'arrêter avec celui-là. Et puis j'accroche vachement bien Vice City Story parce que au niveau de l'interface, des mécaniques, des commandes, c'est hyper similaire en fait avec San Andreas. Et donc du coup, genre j'ai essayé, j'ai fait waouh, ouais, en fait c'est vraiment quasiment la même de partout, que ce soit pour la conduite et autres. Donc du coup, bah direct, c'était un coup de cœur quand je l'ai essayé. Et donc depuis, ouais, je le fais à mon rythme, mais ouais, franchement, si vous cherchez, malheureusement, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas sorti de GTA sur la Vita. Même si ça aurait été compliqué, j'aurais bien aimé voir peut-être, ouais, une version un peu plus compressée, ou à la limite, par exemple, une version du 5 plus compressée, où on n'a qu'un bout de map ou autre, avec, enfin, un peu comme une sorte de DLC quelque part, un peu comme AC3 Libération, avec vraiment genre une histoire qui est, enfin, de l'univers étendu, mais spécialement conçu pour Vita. Mais ouais, c'est dommage. Mais du coup, il reste quand même ces versions PSP avec Chinatown Wars, Liberty City Story, le Vice City. Et notamment, ouais, notamment sûr, du coup les portages non officiels que SBK avait évoqués, qui marchent plutôt bien, enfin vraiment même très bien.
Après, quand on voit que les portages non officiels fonctionnent très très bien, il n'y a pas de raison technique en tout cas qu'ils ne le fassent pas sur PS Vita.
Oui,
Hein.
bah non, pas du tout.
Mais je pense que c'était ils avaient juste d'autres priorités ou enfin voilà, il n'y a peut-être pas spécialement d'envie à ce moment-là. Malgré que sur PSP, on a eu quand même 3 épisodes,
Qui de base était
c'est pas rien
exclusif
quand
en
même.
plus. Enfin, en
En
tout cas,
plus,
ouais,
oui, tout à
les
fait. Enfin,
LC...
sauf Chinatown, mais oui,
Liberty
tout.
City et Vice City Story, ouais, de base, ils étaient exclusifs. Ensuite, ils les ont sortis sur PS2, mais de base, ils étaient exclusifs, ouais.
Exact. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Bah écoute, merci. T'as d'autres choses à ajouter?
Non, pas là qui me viennent en tête, mais ouais, grosso modo, ouais, j'ai à peu près tout dit normalement.
Mais ouais, je vous invite vraiment à aller sur le site, sur PS
Ah si,
Vita,
ouais,
dans la
peut-être
rubrique où
Killzone
il y a
après,
toutes
ouais.
nos listes. Ouais, bah Killzone, on va en parler. Mais vous avez la liste de tous les jeux ad hoc. On en a dénombré une bonne quarantaine. On a un peu galéré parce que des fois, c'est pas indiqué sur les boîtes ou sur les boîtes de jeux, c'est pas indiqué. Et on a trouvé quelques-unes où c'était le cas. Donc voilà. Oui, tu voulais parler de
Ouais,
Killzone
alors pour ceux
pour
peut-être qui
terminer.
le savent pas en fait, Killzone, bah du coup là, pour moi le meilleur FPS de la console. Et il y a un développeur solitaire, enfin solitaire en tout cas pour la partie développement avec une équipe qui s'occupe du reste, qui est en train de peu à peu recréer des serveurs privés en fait. Ça fait quelques mois qu'il est en train de le faire. Et la particularité de ces serveurs privés, contrairement à d'autres jeux où il y a eu des serveurs privés, notamment Little Big Planet, mais qui demandent du piratage, du coup j'en parlerai pas. Mais pas là en l'occurrence, ça en demandera aucun. Ça demandera juste en fait d'aller dans les paramètres Wi-Fi par défaut de la console et de changer le DNS. Donc du coup, c'est une clé en particulier qu'il faudra mettre. Et on aura le retour du coup des trois modes de jeux multijoueurs. Donc du coup, il y avait le Warzone, le Team Deathmatch et le Mercenaire, qui sont donc du coup ouais, les trois modes basiques. Et on aura bel et bien du coup le retour de Killzone. Il y a vraiment une communauté active avec pas mal de monde qui sont là à vouloir, qui attendent et qui seront vraiment très contents d'avoir le retour du jeu. Parce que ouais, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait encore une vraie communauté qui voulait vraiment jouer au jeu. Et puis ouais. En rejouant au jeu, que ce soit pour la campagne ou pour le bot zone, en fait, c'est quand même un super jeu sur Vita, notamment graphisme, ça
Ouais,
tourne très bien, hein, il n'y a
c'est
aucun lag ou autre, on est sur du 30 FPS constant, aucune descente ou autre. Il y a vraiment, il y a, enfin bon, au niveau du gameplay, on n'est pas sur un, le gameplay ne réinvente rien, contrairement à d'autres FPS, enfin, c'est pas un gameplay qui va sortir d'un code ou autre. Ça reste assez classique, mais ça passe bien. C'est efficace et franchement, j'ai hâte que le retour des serveurs revienne parce que notamment pour avoir les trophées en ligne. Et ça, c'est vachement cool pour les chasseurs de trophées qui ont pas eu le temps à l'époque justement de prendre tous les trophées en ligne qu'ils pouvaient sur le jeu. Mais là, on aura le retour du coup de l'obtention des trophées en ligne et il y aura vraiment une vraie communauté qui va revenir et ça, c'est super cool. Ça redonnera peut-être un petit coup de boost à la communauté Vita en tout cas pour le jeu. Et c'est toujours un super point positif de savoir qu'il y a un jeu comme ça qui va être, enfin qu'il y a des gens qui se disent bon c'est bon et qui vont prendre les choses en main et qui font revivre de super jeux comme ça qui sont laissés à l'abandon et dans l'oubli quoi.
Ouais, alors pour la petite histoire, les serveurs de Killzone ont été fermés le 12 août 2022, donc ouais, il y a un petit peu plus d'un an, 1 an et demi maintenant, et c'est vrai que bah, c'était très dommage que le jeu à l'époque était vraiment assez bien fréquenté, surtout le soir. Et puis quand il y a eu l'annonce de la fermeture a été faite à peu près 1 mois avant, c'était mi-juillet, donc ouais, c'était 1 mois avant, même un peu moins, je crois. Je crois que j'ai les dates, 22 juillet, ils ont annoncé que ça fermerait le 12 août, donc on a eu un peu moins d'un mois pour se motiver pour avoir les trophées. Et bah du coup, c'est vrai que c'était blindé, hein. Il y avait du monde, il y a même des gens qui laissaient tourner
Ouais, j'ai vu
leur personnage sur
des
place.
gameplays, ouais, j'ai vu.
Ouais, donc ça c'était marrant. Mais bon, après voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'il reste que le DLC Bot Zone. Alors il coûte 2,49 € sur le store. Ça permet de retourner dans les parties en ligne, enfin tout en étant en hors ligne. Donc on joue contre l'intelligence de la
Artificiel, ouais.
console. Voilà, c'est pas ouf, hein, mais c'est toujours ça. Moi je m'en servais pour l'entraînement, mais bon voilà. Et c'est vrai que pour pouvoir retrouver l'accès aux trophées, à certains trophées, alors moi il y en a un que j'ai pas pu choper en ligne et qui me demandait beaucoup trop de temps, j'ai pas eu le temps, mais oui, ça pourrait être intéressant, donc à suivre. Donc de toute façon,
Ouais,
tu nous posterais très régulièrement les infos
dès
à
qu'il y a des
sujet
news ou
sur nos
autres,
serveurs.
je vous le traduis en français, je vous l'envoie directement. Merci Dipple
Voilà, donc ça
d'ailleurs.
pour ouais, c'est sûr. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, vous nous rejoignez sur Discord. On a un canal dédié à Killzone, enfin en tout cas au FPS, et on peut en parler là-dessus. Après, sinon en FPS, vous avez toujours l'accès à
Call of Duty,
Call of
ouais, mais qui
Duty.
bon est
Call of
pas.
Duty, il est pas ouf. Les cartes sont minuscules, mais il y a toujours du monde dessus. Hein.
Ouais, bah, enfin, y a du monde dans le sens où bon, si vous allez tomber sur 5 personnes dans votre région le soir et puis vous allez tourner avec ces 5 personnes que vous
Ouais,
quittez ou
c'est
vous
ça.
rejoignez la partie durant toute la soirée.
Vous
Après,
tournez, ouais.
le truc, c'est qu'il y a vachement de cheaters et de tricheurs qui peuvent devenir invincibles, qui peuvent passer au travers les murs. Du coup, bon, pour y jouer
Ouais, c'est
avec
sûr, c'est
des
décourageant.
potes en partie privée, histoire de se faire des mêlées générales où tout le monde se tire dessus sans tricher ni rien, c'est assez drôle. Mais sinon, bon, bah, en fait, le problème, c'est, on sent qu'il y avait du potentiel, mais vraiment beaucoup de potentiel de faire un spin-off de Black Ops 2. Parce que de base, le Black Ops Declassified, faut savoir que c'est en fait un spin-off du Call of Duty Black Ops 2 sorti sur console de salon. Donc, la campagne, en fait directement référence à la campagne de Call of Duty Black Ops 2. Et donc, je me suis dit, tain, si ce serait un minimum saoulé, dégoté, enfin, sorti les doigts des fesses pour faire des cinématiques, histoire de vraiment faire un vrai jeu avec bien propre, se servant vraiment de ce que la console pouvait offrir, on aurait pu avoir une masterclass pour le code. Et au final, bon, bah, on sent qu'on a un code un peu bâclé qui est envoyé comme ça. Niveau gameplay, hein, c'est sympa, mais bon, le jeu est lourd, on sent que voilà, genre, ça a été fait un peu à la va-vite, quoi. Du coup, bon, c'est un peu décevant. Mais ouais, il y avait du
Ouais,
potentiel
c'est
avec
sûr.
ce jeu, quoi.
Il y avait du potentiel, ouais, c'est sûr. C'est sûr, ils ont sorti un Call of pour sortir un Call of. C'est vraiment
Ouais,
l'impression
voilà.
que ça donne. Eh ben, écoute, César, en tout cas, merci pour nous avoir partagé toute l'histoire de ton entrée dans le monde de la PS Vita. De
Ouais.
toute façon, on te retrouve sur le Discord pour ceux qui veulent venir voir un peu de quoi tu nous parles et puis sur tout ce qui concerne aussi Killzone que tu suis de très près. Et on a hâte de voir ce que ça va donner.
Ça
Eh ben,
marche.
merci à toi. Tu avais
Ouais.
d'autres choses à
Non,
ajouter, c'est
non,
tout
c'est
bon?
bon. Merci à toi, Seb.
Merci de nous avoir écoutés pour ce 6e podcast. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire directement sur le site avec un don PayPal. Ou alors, si vous achetez des jeux ou des articles sur le site d'import PlayAsia, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code promo Killzone24, donc qui vous permet non seulement de nous soutenir, mais également d'obtenir une réduction de 5% sur vos achats. Donc, ça peut être intéressant. Sachez que vous pouvez également nous rejoindre si vous souhaitez rejoindre une communauté francophone de joueurs autour de la PS Vita. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Et ben, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.